Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés, de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, nous jetons l'ancre aux côtés d'un émissaire de nos sinueuses rivières. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Je m'appelle Jérôme, je suis éducateur à l'environnement. Je travaille aussi comme animateur d'un réseau de collectivités gestionnaires de rivières. Voilà, plutôt dans l'ouest, du côté Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, dans ce secteur-là. Voilà, donc je suis un passionné de l'eau et des rivières. Alors, j'ai grandi dans une terre d'eau qui s'appelle le Marais Poitevin. D'un papa agriculteur, alors qu'on appelle aujourd'hui de la petite agriculture, polyculteur-éleveur sur une quarantaine d'hectares, vin en marais, vin en plaine. Du coup, dans le paysage actuel, c'est un peu changé. J'ai poursuivi quelques études dans l'environnement. Je me suis passionné aussi pour d'autres sujets plus artistiques. Et puis, j'ai décidé de m'engager professionnellement aussi dans le secteur associatif, porter un peu la bonne parole. Et notamment un peu celle du changement de comportement, enfin en tout cas l'idée étant de trouver une harmonie un peu plus équilibrée avec la nature. Je fais pas mal de photos, plutôt sociales, assez peu environnementales pourtant, mais voilà, donc l'humain m'intéresse, hein, c'est pour ça, c'est toujours au milieu de la chose. Un peu de guitare aussi, je suis curieux en fait.
Dis-nous, qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Saurais-tu le décrire en trois mots ? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son ?
Le vivant, c'est... ça bouge. Voilà, peut-être je peux m'arrêter à ça en fait. Le vivant, c'est dynamique. C'est vrai que... Et je pense que tout est un peu régi comme ça. Ça veut dire qu'on peut avoir un paysage devant les yeux. Là, par exemple, on a la Vienne, très calme, voilà... Ceci dit, quand on regarde bien, ça bouge, ça évolue en fonction des saisons, des gros coups d'eau, des inondations. Le vivant, ça bouge, c'est une dynamique. L'immobilité, c'est peut-être le contraire, c'est peut-être la mort. Donc finalement, que ça bouge, c'est une bonne nouvelle. Le vivant, on pourrait peut-être l'associer à la couleur, le vert, parce que c'est quand même là, c'est la bonne saison en plus, tout est vert, tout est en train de reverdir. On passe du gris de l'hiver au printemps. Une texture de terre, par exemple. La terre, c'est le premier élément peut-être du vivant. C'est ce compromis entre le minéral et l'organique. Un son, un chant d'oiseau, par exemple. Là, on en a autour. Ça, c'est très vivant. Une fleur, par exemple. C'est toujours une odeur. Une lavande, j'en sais rien. Une fleur d'acacia, peut-être. Parce que je suis aussi un peu apiculteur. Et c'est une petite plante que j'aime bien parce qu'en plus... Elle est particulièrement utile aux abeilles. C'est un peu leur petit nid. Et le goût ? Allons-y, on continue. Le goût du miel, voilà. C'est le bon compromis, c'est-à-dire que une production d'un petit insecte qui collabore, qui transforme du nectar en miel et finalement pour le grand plaisir des êtres humains.
Cruche, la voilà la jolie cruche, 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 cruchons le vin. La jolie cruche au vin, cruche, cruchons, cruchons le vin. La jolie cruche au vin.
Comment intègres-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
La cruche en vin, le voilà le joli vin.
Peut-être dans les projets, quand on parle de projets, c'est souvent des projets justement humains, hein, voilà. C'est de se poser la question de quelle est la part de la nature dans ces projets-là. Voilà. Donc ça veut dire, moi, dans mes projets, par exemple, ça m'arrive de concevoir des formations, par exemple, pour des élus. Là, ça va être le cas. Il y a un renouvellement des élus qui arrivent. Justement, c'est de leur faire prendre conscience que dans tout projet qu'ils vont décider, qui vont être votés, il y a une part qui n'incombe pas de l'humain, qui vient effectivement du vivant, et de se dire dans mon projet, comment est-ce qu'il peut se construire en compatibilité, qu'est-ce qu'il peut restituer aussi au vivant. Déjà, c'est changer un peu la perception, quoi. Ça veut dire qu'une rivière, c'est quelque chose de dynamique. C'est pas forcément seulement un trait bleu sur une carte. Si on prend des temps lointains, la rivière qu'on connaît aujourd'hui n'était certainement pas exactement à la même place. Elle est passée de méandre en méandre, est arrivée aujourd'hui un peu plus loin, a parfois été redressée au tractopelle par l'être humain. Peut-être que dans quelques milliers d'années, elle refera des méandres, peut-être qu'on l'aidera ou qu'on l'empêchera de le faire. En tout cas, c'est toujours une évolution, quoi. Donc moi, je considère qu'une rivière, même si c'est un élément naturel, composé essentiellement d'eau, mais on a aussi là-dedans un support au vivant. Et de toute façon, son comportement dynamique fait qu'on peut l'associer à finalement un élément vivant.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
L'humain fait partie du vivant, donc de toute façon, a intérêt à le considérer et à interroger tous ses actes, en tout cas à le rapprocher du vivant, quoi. Donc c'est une sorte de collaboration entre l'être humain et les non-humains, le reste du vivant. Mais il en fait lui-même partie, quoi. L'être humain est vivant et il n'est pas tout seul, on est composé de bactéries aussi qui cohabitent avec nous, tout ça c'est un équilibre, et le jour où l'équilibre ne fonctionne plus, on a des problèmes de santé ou autre, et donc on a besoin d'un équilibre, quoi.
On va passer à la question d'actualité. Précédent épisode Feuille de Chou, en ligne sur le site de notre radio PFM 99.9, présentait une étude qui portait sur le retrait de l'imidacloprid, un néonicotinoïde, il y a quelques années, et son impact potentiel sur les oiseaux des campagnes. On rappelle qu'un néonicotinoïde est donc un pesticide de synthèse qui va influer sur le système nerveux des insectes en premier lieu. Ce retrait potentiellement aurait donc permis la moindre chute des populations d'oiseaux des campagnes, c'est-à-dire que le déclin est toujours présent, mais il est moins important depuis le retrait de ce néonicotinoïde. L'étude pointe notamment que le retrait seul d'un néonicotinoïde ne peut se soustraire à une réflexion plus globale sur les paysages, une préservation des systèmes naturels, la réintégration de haies par exemple, la création de mares et bien entendu la connexion de ces dernières entre elles. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
L'être humain est pris dans ses multiples contradictions, hein. On a besoin du vivant, on exploite le vivant pour nous-mêmes vivre. Parfois pas toujours avec les bons moyens. Certains modes de production, souvent industrialisés, hein, pour abaisser les coûts, gagner en temps. Une série de produits d'origine chimique, de synthèse, hein, notamment, souvent issus du pétrole aussi, sont utilisés. Souvent en substitution, quand je pense aux engrais par exemple, aux substitutions d'engrais organiques, issus eux-mêmes d'ailleurs du vivant, et en fait ça crée des déséquilibres. Voilà. Et ces déséquilibres, oui, effectivement, donc on a tout un tas d'études, hein, donc tu en as parlé d'une là, mais on a tout un tas d'études qui démontrent en fait l'impact de l'industrialisation, notamment agricole, hein, mais pas que, sur le vivant. Les oiseaux, c'est un des paramètres, hein, évidemment, on a depuis des décennies des chutes de population. Alors c'est vrai qu'on ne s'en rend pas toujours compte parce que parfois, voilà, certains oiseaux disparaissent en termes d'abondance, sont pas encore rayés de la carte en termes d'existence sur la planète. Et puis l'abondance, on s'en rend pas forcément compte parce que c'est un travail du quotidien. Donc deux de moins chaque jour, peut-être qu'on le voit pas de jour en jour, mais quand on prend la mesure sur 10 ans, bah, on se rend compte d'un certain effondrement. Et ça, c'est assez problématique, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour l'être humain aussi, dans cet équilibre du vivant, quoi. Donc oui, et effectivement, on se retrouve à avoir des propositions de loi qui posent des problèmes parce que ça ne garantit pas un avenir stable posé sur plusieurs piliers fondés sur la nature, mais peut-être que sur un seul été, celui de la chimie de synthèse, c'est peut-être périlleux. Une plateforme est moins stable sur un pilier que sur 4 ou 5 ou 10 ou 20 ou 50 que peut nous proposer la nature.
On va passer à la question d'actualité. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
C'est le printemps, voilà. Peut-être que déjà le premier acte d'aller se reconnecter à la nature, c'est de sortir de chez soi, d'aller en connexion avec la nature, si possible aussi avec d'autres gens pour connecter plus de monde encore. Et pour ça, on a tout un tas d'événements locaux ou nationaux. Le printemps des castors, la fête des mares, il y aura... Aujourd'hui, c'est les journées mondiales de l'eau, la semaine des rivières, début juin. Voilà. Donc on a tout un tas d'événements comme ça, des sorties nature organisées par énormément d'associations qui permettent justement de se reconnecter, quoi. Se reconnecter, c'est tout simplement comprendre un petit peu comment ça marche, quoi. Voilà, les fondamentaux. L'idée, c'est pas de finir ingénieur de la thématique, mais c'est d'avoir un peu une vision d'ensemble, de comprendre un peu les interconnexions et que, voilà, quand j'arrache l'iris qui est devant nos pieds, par exemple, ben, ça a un petit impact sur d'autres, sur un équilibre, et qu'en fait, nous, on fait partie de cet impact-là, quoi, et de ces équilibres-là. Donc, ça nous remet au milieu de la place. Et on comprend que tout ça est un tissu en fait, hein, et que quand on enlève une maille, c'est pas pour autant que ça s'effondre aussitôt, mais on comprend que l'ensemble bouge. Essayer de bouger dans les événements, voilà, les sorties nature, les reconnexions un petit peu à nos différents éléments naturels. Référence biblio, le livre qu'a sorti Suzanne Husky et Baptiste Morisot, donc philosophe pour l'un et aquarelliste plutôt pour l'autre, tous deux passionnés de rivières et de castors, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement il n'y a pas que l'être humain qui est ménageur de cours d'eau, il y a un autre bâtisseur qui a quatre pattes et une queue plate et qui s'appelle le castor, et qui était présent il y a déjà 8000 ans dans nos cours d'eau, qui a profondément fait changer le tracé de nos cours d'eau par ses constructions, et finalement qui a étendu par son génie créatif, si je le rapporte à celui de l'humain, un cours d'eau parfois en zone de marécage très fortement hydratée, avec du coup une population de faune et de flore exubérante, luxuriante la plupart du temps. Voilà, que l'être humain plutôt cherchait au contraire à gagner de la terre et réduit le cours d'eau parfois un seul chenal, réduisant considérablement sa richesse floristique et faunistique. Donc ouais, c'est ce livre là, Prendre l'eau à la terre, de Baptiste Morisot, Suzanne Husky, serait peut-être à recommander. C'est assez good vibe. Je souhaite à tous une bonne baignade dans la rivière d'en face, quoi. Voilà, le jour où on pourra vraiment se baigner tous dans nos cours d'eau, ça veut dire qu'on aura quand même gagné une bonne partie de la bataille. Hein.
Tu y as pêché où, baobab d'acajou?
Voici que cet épisode, baobab, aux côtés d'un chuchoteur d'un avenir enviable,
tu
prend fin.
Pêché où,
la semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle feuille de chou, fraîchement cueillie.
Des landes palissandres, mais les œufs tremblent être noyés.